Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'une maman confrontée à un enfant différent, qui va mettre beaucoup de temps à admettre cette différence et surtout à obtenir un diagnostic. Alexandre est autiste Asperger. Et cette maman, vous la connaissez sans doute, puisqu'elle est animatrice à la télé depuis de longues années. Elle a présenté les maternelles sur France 5. Elle s'appelle Elisabeth Tchungi. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Christophe.
Vous racontez toute votre histoire avec une certaine dureté et aussi pas mal d'humour dans un livre qui paraît chez Flammarion, Le jour où tu es né une deuxième fois. C'est un livre que vous avez écrit en vous adressant à votre fils Alexandre. Alors j'ai choisi de garder votre forme. Je vais donc vous prêter ma voix et m'adresser moi aussi à Alexandre. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Mon fils, mon petit prince, mon doudou bébé, tu es mon premier enfant. Alors on me disait, chaque enfant est différent. D'accord. Pendant longtemps, j'ai mis toutes tes incongruités sur le compte de ta personnalité. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas compris. La première à avoir perçu ta différence, c'est ta marraine. Tu as 2 mois, elle veut te chatouiller, tu te rétractes comme un homard qu'on ébouillante. À 18 mois, tu détestes qu'on t'embrasse. Tu essuies ta joue. Et là, c'est ta grand-mère qui dit « Ah, aucun de mes petits-enfants n'a jamais réagi comme ça. » À 18 mois, tu délaisses tous les jeux d'éveil. Tu ne veux pas non plus des peluches ou des petites voitures. Tu ne t'intéresses qu'aux trains. Tu les fais tourner en boucle sur ton circuit fermé, pendant des heures. Ah, le train. Assez vite, tu sais distinguer le TGV standard, bleu et gris, le Thalys, Bordeaux, l'Eurostar jaune et blanc et les Ouigo aux couleurs qui claquent. Et tu es capable à l'oreille de distinguer un corail d'un train de marchandises. Le train. Je me souviens, tu as 2 ans, on pique-nique au parc Montsouris à Paris et tu cours observer le RER qui traverse le parc. Et ta marraine, encore elle, dit « Alexandre a une démarche particulière, non ? Tu trouves pas ? Comme si le côté droit de son corps était en décalage, non ? Je n'ai pas fait attention. Je n'étais pas prête à l'entendre. Elle n'a pas insisté. On en a reparlé depuis. Elle m'a dit « Enfin, je n'étais pas médecin, Elisabeth. J'étais juste la marraine d'Alexandre et ta meilleure amie. » De quel droit j'aurais pu te dire qu'un immeuble allait te tomber sur la tête, hein ? Elle me l'a dit depuis. Elle a pensé tout de suite à l'autisme. Ta démarche un peu raide, tes fixettes, ça lui rappelait un ancien amant qui était autiste Asperger. Mais moi, ça m'est rentré par une oreille et c'est ressorti par l'autre. À cette époque, tu dis non à tout. Alexandre, allez, viens, on va prendre ton bain. Non. Allez, viens manger. Non. Et c'est pareil pour aller te coucher, pour aller te promener. On se dit, il faut te mettre des limites, alors on te punit. On t'enferme dans le noir, dans mon dressing. Tu es terrorisé. Et cet épisode va longtemps cristalliser ma culpabilité. Tu as 4 ans et tu vas faire ta première rentrée à l'école maternelle. On a voulu te mettre à l'école publique, à 50 mètres de la maison. C'était commode. Mais de 1, tu n'étais pas propre. Et de 2, on nous a annoncé 30 élèves dans ta classe. Alors in extremis, on t'a trouvé une place à l'école des bisounours. Privée. Hors contrat, mais pas trop cher. Pédagogie alternative. J'ai une photo dans mon album de cette première rentrée. Tu as l'air égaré. Hagard. Et le deuxième jour, tu dis « Je veux plus y aller !» Au début, je te traîne sur le trottoir. Et puis, je fais demi-tour et tu te calmes à la maison. Tu as fini par y aller à l'école. Mais la maîtresse dit « Il est timide, hein. Il reste toujours dans son coin. Il n'interagit pas trop avec ses camarades. Et un jour, la directrice, avec beaucoup de délicatesse, « Alexandre est un enfant attachant, mais il est absent. Il est ailleurs, il ne joue jamais avec ses camarades, et puis, à chacun son rythme, hein, mais il rentre pas dans les apprentissages, pas du tout. » Et à côté de ça, il y a la télé, mes audiences qui ne sont pas bonnes, et les polémiques à la noix. Il paraît que j'ai mis une jupe trop courte. Il semble qu'on ne puisse pas porter une jupe et penser en même temps. On me dit « Elisabeth, passe une demi-heure à la soirée. Il y aura du beau monde. Et pour te remercier, la marque t'offre une tenue complète. T'iras la choisir au showroom quand tu veux. » On me dit aussi « Il faut que tu te montres, Elisabeth. Il faut que tu fasses la tournée des politiques, sinon tu sauveras pas ton émission. Hein. » Mais moi, à cette époque-là, je veux juste être avec toi. Ah, les spécialistes. On en a tellement vu, toi et moi, que je leur ai collé un numéro. Numéro 1, un ophtalmo, qui détecte une légère hypermétropie et qui te colle des lunettes. Sauf que 6 mois plus tard, tu viens me dire « Maman, je vois mieux sans les lunettes. » Numéro 2, un ORL, qui te fait passer des tests d'audition dans une cabine.
« Il entend bien, hein? Pas de problème. »
Sauf qu'il ne voit pas que tu entends trop, que tu es hypersensible au bruit, que tu fais de l'hyperacousie. La numéro 3, c'est ta pédiatre, à l'ancienne, agacée par les jeunes parents toujours flippés.
« Il est dans sa bulle. Eh bien, il finira par en sortir. Regardez comme c'est un bel enfant. » Tout ira bien, vous verrez.
C'est elle qui me donne les coordonnées du numéro 4, une psychomotricienne sèche comme un coup de trique.
Il est beaucoup trop verrouillé pour passer les tests. Il faut que vous alliez voir une psychologue.
Ok, la psy sera donc le numéro 5. 400 euros le bilan. Et elle te fait passer des tests. Et elle te montre des images de cochons, de poules et de lapins, et toi, tu lui parles du TGV duplex qui part de l'île Europe et qui va à Roissy. Bilan?
Ce sont probablement des angoisses, hein, très fortes, qui l'empêchent de s'ouvrir aux autres et à l'environnement.
Je ne l'ai pas attendu pour savoir que tu es angoissé. Tu refuses de dormir tout seul. Quand je vide ton bain, tu ne veux pas voir la bonde de la baignoire. Au revoir, numéro 5. Et là, je prends tout de suite rendez-vous avec le numéro 6, une autre psychologue que je connais par la télé quand je présentais les maternelles. Et moi, pendant ce temps-là, le soir, je passe des heures sur Internet. La nuit à la maison, c'est cache investigation. Et de site en site, une nuit, à 3 heures du matin, j'en arrive à une hypothèse. L'autisme. L'autisme Asperger. L'autisme de haut niveau, comme ils disent. En attendant, le numéro 6 n'a rien apporté. Mais numéro 5 m'a conseillé un neuropédiatre, qui sera donc le numéro 7. Dans un hôpital privé prestigieux, le rendez-vous le plus inutile de tout le parcours.
C'est beaucoup trop tôt pour des examens poussés. Revenez dans un an.
Inutile, mais moins nuisible que le numéro 8. Ah, le numéro 8, un ponte de la pédopsychiatrie. Par ailleurs, psychanalyste. Il hoche la tête avec componction dans un fauteuil en cuir. Je lui dis d'entrer à quelle conclusion je suis arrivé par Internet. Que je pense que tu es autiste Asperger.
Mais non, mais non. Il a établi une interaction avec moi. Il n'est donc pas autiste.
En revanche, lui est psychanalyste. Et on se retrouve à traquer les traumatismes de la petite enfance. Je lui raconte que j'ai fait un accouchement difficile, que tu as fait des malaises, que tu as eu de la fièvre et que tu as passé de longues heures loin de moi.
Donc un lien maternel qui s'établit difficilement. Fusionnel, difficulté à vous lâcher, à grandir.
Je suis dans le viseur. Je t'ai trop aimé ou pas assez aimé. C'est de ma faute si tu es dans cet état. Et là, il nous envoie vers le numéro 9. Un psychologue avec lequel il a l'habitude de travailler. Batterie de test, tu exploses tout en vocabulaire et en logique. Mais tu rames dans les épreuves plus conceptuelles. Un thérapeute formé à l'autisme aurait fait le lien. Mais pas elle. Elle dit « Le fonctionnement psychique d'Alexandre est caractérisé par un système serré, hein, qui associe angoisse ancienne et intense et défense phobique et rigide. C'est un système qui est très coûteux sur le plan de l'énergie psychique et qui entrave le développement intellectuel et empêche l'organisation psycho-affective de se structurer sur le versant névrotique. » Bon sang, mais c'est bien sûr. À un moment donné, je l'emmène voir un ostéopathe, le numéro 10. Est-ce qu'Alexandre a été vacciné contre la tuberculose? Oui. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'enfants que j'ai vu passer ici dont les angoisses sont liées à une mauvaise réaction au vaccin contre la tuberculose. Allez voir cet homéopathe-là. Je vous marque son nom sur un bout de papier. C'est un uniciste. C'est quelqu'un qui m'a tout appris. Je vous préviens. Il est à la retraite. Il ne prend plus que du liquide. L'homéopathe uniciste est donc le numéro 11. Je suis épuisé. Dans mon état normal, je ne serai jamais allé voir le numéro 11. Je me renseigne avant. J'apprends qu'il y a deux sortes d'homéopathes, les complexistes et les unicistes, très minoritaires. Et donc j'y vais. Un appartement un peu glauque dans une tour de la Défense, moquette des années 80. Est-ce qu'il transpire la nuit, votre fils? Est-ce qu'il a peur de l'orage? Et là, le numéro 11 sort un appareil. Je vais connecter cet embout à chacun des doigts de votre fils. Ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal. Faiblesse énergétique. Je vais vous prescrire du zinc. C'est un élément qui va entrer en correspondance vibratoire avec votre enfant et qui va contribuer à le réharmoniser. Je l'ai fait, sans aucun résultat, évidemment. Alors, qui sera le numéro 12 ? Mon fils, mon astre, ça y est, j'ai identifié le numéro 12, j'ai trouvé son nom sur le web. C'est un pédopsychiatre spécialiste d'Asperger. J'ai appelé son secrétariat, ils m'ont demandé d'envoyer un dossier. Et miracle, j'ai décroché un rendez-vous dans les 15 jours. Le premier rendez-vous, il me reçoit seul. Il a pris connaissance de ton dossier, il m'écoute et il dit... J'attends de voir Alexandre pour en être certain, mais effectivement, tout converge vers Asperger. Et deux semaines plus tard, te voici dans son bureau. Comme d'habitude, tu commences par lui tourner le dos, tu grimpes sur moi, puis tu redescends en rappel et tu finis par te planquer sous ma chaise. Il entend tes histoires de train en boucle. Il te pose des questions et puis il se tourne vers moi. Bon. Alexandre présente effectivement un syndrome d'Asperger. Mais c'est une forme plutôt légère. Et puis juste après, il revient à toi. Tu vois, Alexandre, le cerveau, cette super boule qui est dans ta tête. Eh bien, le cerveau, c'est un peu comme un circuit de train. Tu me parlais d'aiguillage tout à l'heure. Eh bien, chez toi, les aiguillages ne sont pas les mêmes que chez les autres enfants. Mais ne t'inquiète pas, je connais beaucoup de gens qui vont t'aider. Et moi, ouf, quelque chose qui se relâche. C'est pas un affaissement, ça serait plutôt un allègement, un soulagement. Enfin, un diagnostic. Je ne vous l'ai pas dit, mais depuis 7 mois, je continue de voir le numéro 8. Le pédopsychiatre qui m'a dit « il n'est pas autiste, puisque je rentre en relation avec lui ». On a rendez-vous la semaine prochaine. Alors j'appelle pour annuler.
Oui, bonjour. Oui, nous avons voulu prendre un deuxième avis et Alexandre a été diagnostiqué. Oui, autiste Asperger.
Ah bon? J'aimerais bien vous voir néanmoins. Rapidement. Dans 2 jours.
Et 2 jours plus tard, il démonte point par point le diagnostic de son confrère.
Oui, certes, il présente des caractéristiques autistiques, mais surtout névrotiques et psychotiques. N'attendez pas de lui, par exemple, qu'il apprenne à lire et à écrire, hein? Moi, je préconise des séances chez un psychothérapeute qui est spécialisé en psycholinguistique, 3 fois par semaine, et puis 2 séances chez un orthophoniste, et au moins 1 chez un psychomotricien, en plus de nos rendez-vous, hein? Et puis, l'hôpital de jour reste une option.
L'hôpital de jour? L'hôpital psychiatrique, autrement dit. L'asile? Qu'est-ce que je fais? Je me lève et je le bouscule? Ou bien je me lève et je le gifle? Ou bien je me lève et je pars? Asperger. Ça n'est pas une maladie. C'est ce qu'on appelle un TED, un trouble envahissant du développement, avec des qualités et des défauts. Tes qualités, parlons-en. Une mémoire bionique des dates et des événements.
Maman, tu portais une robe bleue et des boucles d'oreilles au Noël des copains quand j'étais en petite section de maternelle.
C'était il y a 2 ans, et il avait 3 ans. Et tu connais les systèmes de fermeture des portes d'avion selon les modèles. Airbus ou Boeing, et le mécanisme de couplage des TGV. Tu regardes des vidéos sur YouTube pendant des heures sur le couplage en gare de Rennes ou en gare de Bordeaux. Et puis tu as aussi des défauts. La crise de fin de journée, les colères du soir quand tu rentres de l'école. Ce soir par exemple, c'est gratiné. Avec ton père, on doit aller dîner avec des amis. Tu refuses que je sorte. Tu veux venir avec nous. Tu mets ton manteau et tu te mets dehors près de la voiture. Il fait 0, tu y restes 1 demi-heure. Et ton père finit par rester avec toi. Et toi tu dis
« Je veux pas mourir. Je veux pas que tu meurs. Je veux rester avec toi toujours. »
Tu as une autre façon d'appréhender le monde. Voilà tout. Dans ton monde à toi, nous autres, nous sommes des gens bizarres. Tu revendiques ton droit à ne pas nous ressembler. T'as bien raison, mon ange. T'as bien raison. Alors avec le numéro 12, que tu appelles le docteur Mirabel, nous avons mis en place un régiment de fantassins pour te préparer au parcours que nous avons choisi, celui de l'inclusion scolaire dans le système. Une orthophoniste pour dompter ta voix monocorde trop aiguë, un psychomotricien, et puis 2 psychologues qui animent un groupe d'habileté sociale, qui pratiquent des jeux de rôle pour apprendre à dire bonjour, à se présenter, à regarder celui qui parle, à respecter la distance raisonnable aussi avec les gens. Voilà, il ne te manque que la pièce maîtresse, un AVS, un auxiliaire de vie scolaire. Je te l'ai dit, on a choisi de te scolariser en CP classique, dans une école privée, à condition de trouver un AVS pour t'accompagner.
Alors, pour pouvoir obtenir un AVS, il vous faut déposer un dossier à la MDPH, afin que le CDAPH puisse valider un PPS. Et à cet effet, il vous faut remplir un dossier GVASCO, hein, qui sera constitué à la suite de la réunion de l'équipe éducative, et vous ferez aussi une demande d'AEH.
Au secours! Donc, tout passe par la MDPH, la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Moi, j'appelle ça plutôt la maison dédiée à plomber les handicapés, ou le mollusque dormant paresseux, et néanmoins hostile. La MDPH. Premièrement, vous téléphonez, ça ne répond jamais. Et quand ça finit par répondre, la voix est revêche. et excédé. Je demande les coordonnées de l'enseignante référente, puisque tout passe par elle.
Ah, elle a été mutée. Le poste est vacant.
Ah bon? Mais jusqu'à quand?
Ah, on ne sait pas. Il faudra nous rappeler, madame. Bonne journée.
On espère. Mais la rentrée arrive et nous n'en avons toujours pas. Et donc tu rentres sans accompagnant. Et 4 jours après la rentrée, à midi, au lieu d'aller à la cantine, tu décroches, tu quittes la Terre pour la Lune et machinalement, tu suis un camarade juste devant toi qui sort pour déjeuner chez lui. Et pendant 10 minutes, tu es seul dans la ville jusqu'à ce qu'une dame qui te voit seul sur le trottoir te ramène à l'école. À la MDPH, au bout de 5 mois, le poste d'enseignant référent est enfin pourvu. On va pouvoir organiser la réunion. Eh bien non.
Ah, écoutez, je suis débordé. Je peux pas être partout.
Tu as de la chance, mon fils, d'être tombé dans une famille qui a les moyens. J'en trouve une toute seule, spécialisée dans les troubles autistiques. Et après 6 semaines d'errance, tu as enfin quelqu'un pour t'accompagner à l'école. Gabrielle. Elle te réexplique les consignes. Elle aère tes cahiers d'exercices. Elle débloque quelque chose en toi. Mais à la fin de l'année, on décide de te changer d'école. Le directeur me dit.
Eh bien, c'est une triste nouvelle. Alexandre va nous manquer. On a beaucoup appris avec lui. Il nous a bluffé. Il est sorti de sa coquille. Il interagit avec ses camarades. Non, vraiment. Il nous a surpris.
J'ai décidé de te scolariser à la Lennon School, à Paris. Une école bilingue américaine qui accueille des enfants autistes dans toutes les classes. 15 élèves par classe. Des petites tables rondes autour desquelles les enfants s'entraident. Babi et glousse en 2 langues. Que du rire, de l'enthousiasme, de la légèreté. Quel bonheur, quel soulagement pour nous, toutes ces années à la Lennon School. Tu nous éblouis chaque jour, mon fils. Dans ce chemin de vie que nous avons fait ensemble, moi aussi, j'ai été accompagné. Et la première psy a été la bonne. Je lui raconte tes petits pas, tes grands pas, et je lui dis
« Vous savez, je n'ai pas eu le choix. »
« Ah, détrompez-vous. Vous avez eu le choix. Vous auriez pu fuir, vous auriez pu vous réfugier dans le travail, vous auriez pu rentrer à pas d'heure, le confier à une institution, à des nounous. Vous aviez le choix. » Alors vous, les mamans qui m'écoutaient, faites confiance à cette petite musique intérieure qui vous souffle ce qu'il y a de mieux pour votre enfant. C'est la voix de la raison. C'est la voix du plus fort. Vous. Et c'est la fin de l'histoire. Ça va, Elisabeth ?
Écoutez, beaucoup d'émotions, mais je pensais beaucoup pleurer. En fait, j'ai beaucoup ri.
Ouf.
Parce que, effectivement, ce parcours, notamment avec les sachants, qui a duré 18 mois et que vous avez admirablement restitué en quelques minutes, apparaît encore plus surréaliste et encore plus scandaleux. Donc, c'est un rire jaune, évidemment.
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché dans cette histoire, et qu'on va évacuer tout de suite, c'est que tout le début de l'histoire, notamment ce moment où Alexandre rentre pour la première fois à l'école maternelle, dans cette école des bisounours. Vous, en parallèle, vous êtes dans un immense défi professionnel, c'est-à-dire que vous allez présenter l'émission culturelle de France 2. Évidemment, vous ne faites pas d'audience, parce qu'on fait jamais d'audience avec les émissions culturelles. Et ça ne marche pas, et vous vivez ça en parallèle des problèmes que vous rencontrez avec Alexandre. Et évidemment, je me dis, parce que je me souviens très bien de cette époque, on regardait vos performances et on disait « Ah, ben ça marche pas. Encore une fois, ça marche pas. » Et en fait, c'était pas votre sujet principal.
Non, ce n'était pas mon combat principal, absolument. J'étais dans le combat pour mon enfant, qui était beaucoup plus important. Mais je vois à quel point aussi Alexandre m'a apporté, parce que ce combat qu'on a gagné ensemble m'a rendue beaucoup plus forte. J'ai retrouvé une confiance en moi que je n'avais jamais eue. Et je sens que cette nouvelle confiance est en train de me nourrir professionnellement.
Ouais, c'est marrant.
Donc,
ça.
Il se passe quelque chose.
Que vous a apporté le fait d'avoir été pendant une saison seulement, mais une saison tout de même, l'animatrice de la fameuse émission de France 5, les maternelles, dont le sujet est précisément l'enfant. Est-ce que ça vous a préparé, d'une certaine manière, à affronter ça?
Oui, je dois beaucoup aux maternelles parce que je voyais défiler des spécialistes qui...
numéros.
Non, ils étaient très bien, globalement, ceux que nous accueillons aux maternelles, mais on sentait bien le dogmatisme, on sentait bien qu'il y avait un point de vue. Et j'ai compris, grâce à cette émission, que la médecine n'était absolument pas une science exacte et que la vérité se trouvait très souvent à la jonction de plusieurs avis.
Vous racontez extrêmement bien ce moment où les signes de l'autisme Asperger sont là, mais où vous ne les voyez pas. Et c'est marrant parce que votre meilleure amie, qui est aussi la marraine d'Alexandre, elle non seulement elle les voit, mais elle pose un diagnostic à 18 mois, qui est juste. Et il va vous falloir plus de 2 ans pour le voir confirmé par un spécialiste. Ça, c'est une source d'interrogation, j'imagine, pour vous. Pourquoi elle voit? Et pas vous. Bon, vous n'avez peut-être pas eu d'amant autiste Asperger
voilà.
Comme elle.
Non. Un jour, ça viendra peut-être. Mais Alexandre est mon premier enfant. S'il avait été le deuxième, j'aurais su très, très vite qu'il se passait quelque chose.
Cela dit, s'il avait été diagnostiqué plus tôt, ça aurait changé quoi?
Il aurait gagné 2 ans sans angoisse, déjà. Et puis, la plasticité cérébrale est optimale jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, plus tôt on diagnostique les enfants,
plus, la rééducation.
Plus vite ils feront des progrès. Et les progrès sont plus grands.
Aux États-Unis, ils sont diagnostiqués plus tôt, les enfants autistes.
Oui, ils sont diagnostiqués dès l'âge de 3 ans, au Canada aussi. Et la France a un vrai retard là-dessus, notamment parce que il y a ce lobby psychanalytique qui commence toujours par investiguer des causes freudiennes.
Voilà, faut expliquer
et à pointer la Kalachnikov sur la mère, cette mère toxique.
La prise en charge des enfants autistes en France est marquée par la psychanalyse. Pendant longtemps, on n'a pas voulu pratiquer les méthodes américaines, qui sont des méthodes alors qu'on appelle de dressage, hein, notamment la méthode ABA.
Qui... Les psychanalystes
voilà, appellent
dressage, mais l'éducation, c'est du dressage quelque part, de toute façon.
Donc les psychanalystes ont longtemps résisté en France à toute forme d'éducation de l'autiste. Ils ont longtemps considéré que il était autiste, il fallait le placer, et puis c'est tout.
Voilà. Exactement. Donc, mettre des intelligences différentes sur le côté. Et j'insiste sur les intelligences différentes parce que ce que j'explique aussi dans le livre, c'est qu'aux États-Unis, aujourd'hui, dans la Silicon Valley, il y a des ingénieurs autistes Asperger qui travaillent sur des sujets très pointus d'intelligence artificielle parce qu'ils ont des compétences que les neurotypiques, comme les appellent les autistes Asperger, nous, ces gens bizarres, n'ont pas. Il y a des autistes Asperger dans l'armée israélienne parce que leur mémoire cartographique et leur logique permet d'analyser des données que des neurotypiques ne peuvent pas analyser.
Ça c'est nous, hein, les neurotypiques.
Oui, c'est nous.
C'est nous. Il y a un chroniqueur autiste Asperger à Europe 1 dans l'émission de Sophie Larmoyer qui raconte le monde avec une acuité incroyable.
Oui, Joseph Chovanec, qui a fait partie des phares dans cette nuit, parce que c'est vrai que quand on a un enfant différent, la principale préoccupation, c'est sera-t-il heureux dans cette société si normative? Et Joseph Chovanec a été un de mes héros. Je me suis dit, voilà, cet homme brillant, et un jour, mon fils sera comme lui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'autisme Asperger, qui n'est pas comparable aux autres formes d'autisme, qui peuvent se caractériser par de la violence? On a vu une multitude de reportages sur ce qu'est l'autisme. L'autiste Asperger est un autiste à part. Donc il a cette forme d'intelligence, on dit que c'est un autisme de haut niveau. Ils ont cette forme d'intelligence exacerbée. En moyenne, d'une certaine manière, ils sont plus intelligents que nous.
Oui, je pense qu'ils sont plus intelligents que nous. Ils ont une mémoire incroyable. Effectivement, Alexandre est capable de me dire, maman, Noël 2014, on a pris l'avion pour aller au Cameroun et c'était un Airbus, un Airbus A330 et pas un 777 et on était assis à la rangée A. Ils ont une logique différente. Je pense que moi, je me demande si quelque part, alors ça c'est de la pure hypothèse, mais on a quand même toute une partie du cerveau qu'on ne connaît toujours pas, et je me demande si finalement eux
n'y ont pas accès. Ça leur donne des opportunités supplémentaires. Par exemple, aujourd'hui, quand vous pensez à l'avenir d'Alexandre, vous le voyez, ou vous le voulez, ou vous le sentez ingénieur, musicien... travaillant à la SNCF.
Les trois, peut-être. Quelque chose d'extraordinaire, en tout cas.
Il a un potentiel.
Bien sûr. J'ai une confiance absolue en mon fils. Je fais moins confiance au système, encore une fois. Parce que là, nous sommes, par exemple, dans une nouvelle étape. Alexandre va entrer au collège. Hein, lui, dont Sachant 8 disait qu'il ne saurait pas lire et écrire, Alexandre va rentrer au collège. Et on voit beaucoup d'établissements qui ferment leurs portes parce que, ils ont du mal à appréhender la différence.
À cette époque-ci, vous ne savez pas encore si vous aurez une place dans un collège normal à la rentrée prochaine.
Absolument. Donc c'est le nouveau défi dans ce parcours d'obstacles, mais qu'Alexandre a toujours franchi brillamment un à un, et je ne doute pas qu'il franchira celui-là aussi.
Parce que on voit que vous auriez souhaité que tout se passe dans le système public, que c'était votre idée de départ.
Bien sûr, j'ai une mère professeure, donc je crois au système public, je crois à l'égalité républicaine, mais ça n'a pas été possible.
Et donc vous avez été contraint depuis le début à passer par le privé, d'abord hors contrat, aujourd'hui hors contrat aussi dans cette école américaine, où il est toujours ?
Où il est toujours, absolument, mais du coup pour réintégrer le système public, parce qu'il y a un collège qui est très bien là où on habite, pas loin de chez nous, et qui prend effectivement des enfants différents, mais il faut quand même qu'il passe un examen, donc il faut qu'il prouve qu'il est capable de re-rentrer encore dans la norme. Mais j'insiste sur la chance que j'ai eue d'avoir les moyens de le mettre dans le système privé. Et depuis la sortie du livre, il y a très peu de temps, je ne cesse de recevoir des messages de mamans qui n'ont pas cette chance-là et dont les enfants sont déscolarisés. Et ça, c'est un véritable scandale dans un pays qui se targue d'être la 7e puissance mondiale.
Ce qui saute aux yeux à la lecture de ce livre, c'est l'incompétence, disons-le comme ça, d'une partie des médecins et des soignants. Vous appelez ça, vous, des sachants. Je l'ai pas gardé parce qu'à l'oral, ça passe moins bien qu'à l'écrit. Des sachants que vous avez rencontrés et que vous avez donc numérotés de 1 à 12. Numéro 12 étant celui qui a posé le diagnostic. Numéro 1, c'est un ophtalmo. C'est intéressant parce qu'il voit une hypermétropie qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de lunettes.
Le premier à côté de la plaque, exactement. Comme le suivant, dès le début, voilà.
Et l'ORL, qui est le numéro 2, lui ne voit pas qu'il a une hyperacousie, c'est-à-dire que le bruit l'agresse.
Voilà, effectivement, on va vérifier chez l'ORL qu'il n'a pas des problèmes de surdité, qu'il n'est pas malentendant. Donc effectivement, il n'est pas malentendant, mais il ne détecte pas cette hyperacousie qui rend si difficile sa concentration dans une classe à 30 élèves, par exemple, rendait très difficile un trajet dans le métro.
Mais c'est ce qui fait aussi que dans la cour de récréation, il est dans son coin, c'est à le bruit.
Oui, voilà, moi j'ai ce souvenir terrible d'Alexandre tournant autour d'un marronnier dans une cour de récréation avec 500 élèves autour.
Qui crie. Le numéro 3, c'est votre pédiatre. Alors ça, c'est un cas intéressant parce que vous lui avez conservé votre confiance, si j'ai bien compris. Mais elle n'a été au fond qu'une pédiatre un peu old school, agacée par ses nouveaux parents qui ont peur de tout.
Oui, il y a juste titre d'ailleurs, parce que moi aussi parfois, j'étais pas une mère flippée du tout. Je lui dois quand même, c'est quand même elle qui m'a à un moment également parlé de sachant numéro 12 que j'avais repéré sur internet. Et puis effectivement, ça pointe le manque de formation
des médecins
généralistes à l'autisme, tout simplement.
Alors le comble, évidemment, c'est numéro 8, je passe sur quelques numéros. Et là, évidemment, vous touchez le doigt sur le fossé qui existe aujourd'hui dans la psychiatrie française entre les psychanalystes et les non-psychanalystes. Et donc lui, il est psychanalyste, numéro 8, et il va chercher le trauma. Qu'est-ce que vous lui avez fait à cet enfant ?
Oui, absolument. C'est toujours la mère qui est coupable. Hein. Visiblement, ce n'est jamais le père qui a été un traumatisme pour l'enfant. Et effectivement, ce qui est frappant, c'est ce dogmatisme. Et le comble, finalement, c'est quand il se sent sans doute désavoué par le diagnostic de sachant numéro 12 et qu'il va donc nous convoquer littéralement pour nous dire que l'autre ment. C'est lui la science infuse. Mmh. Ça, et malheureusement, ces pontes, il y en a beaucoup en France. Et je pense que la médecine, c'est comme toutes les disciplines, il faut savoir se remettre en question. C'est comme toutes les professions, il y a des bons, il y a des mauvais, puis il y a des escrocs.
Il s'est bien planté parce qu'il vous dit qu'il ne saura ni lire ni écrire. Or, il sait lire plutôt que la moyenne des enfants. Il a du mal à écrire au début. Aujourd'hui, comment ça va sur l'écriture ?
Les autistes Asperger ont souvent du mal avec la motricité fine, donc des difficultés d'écriture. Donc, ils passent assez vite au collège sur des tablettes. Donc, ils sont déjà en avance sur leur temps, puisque de toute façon, un jour, tous les enfants étudieront sur une tablette.
Qu'est-ce qu'on conclut de tout ça ? C'est que la psychiatrie est un sacré bordel ?
Non, parce que, je pense que Freud, Lacan et autres n'ont
pas tort,
n'ont pas fait de bien, sont des grands misogynes, voilà. Voilà,
en cherchant finalement le trauma, oui, du côté de la mère. Alors, après il y a des moments qui sont absolument délicieux. Numéro 10, l'ostéopathe qui incrimine le vaccin contre la tuberculose, effarant.
Oui, mais à ce moment-là, encore une fois, on est tellement en quête de réponse qu'on n'a plus de filtre, Mais le pompon restant quand même sachant numéro 11, je crois.
Oui, l'homéopathe uniciste. Alors, vous n'y croyez pas à la base, c'est ça qui est marrant, et vous l'expliquez très bien. Vous êtes fatigué, vous cherchez la réponse, et vous y allez quand même.
Oui, j'y vais quand même.
Et vous payez en liquide.
Je le paye en liquide, parce qu'on espère toujours le miracle, on espère que d'un coup de baguette magique, tout va rentrer dans l'ordre. Et puis aussi, je me dis, c'est une sorte de rebouteux qui soignait assez efficacement ma grand-mère, donc pourquoi pas, après tout.
Et vous lui donnez donc le zinc. C'était un charlatan, disons les choses, clairement.
Je ne porterai pas de jugement. Peut-être que la prescription de zinc marche très bien chez certains.
Mais pas chez les autistes Asperger. Merci beaucoup, Elisabeth Tchungi, d'avoir partagé cette histoire avec nous et de m'avoir autorisé à la partager avec les auditeurs d'Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, Le jour où tu es né une deuxième fois, qui paraît aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
Merci.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.